De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le chemin de halage de la Mayenne où nous attend Monique Leroux Serre, auteur de ce haïboun, c'est-à-dire un récit de voyage, de route mêlant prose et haïku, un haïboun intitulé De Fougères en libellule. Monique Leroux Serre a fait un long voyage à pied sur le chemin de halage de la Mayenne. Nous l'avions quittée la semaine dernière alors qu'elle était à la chapelle de Pritz, une chapelle gothique, Notre-Dame de Pritz, qui tire son nom de Notre-Dame des périls et qui protégeait les gens traversant la Mayenne à un gué tout proche. Reprenons le fil de notre promenade. L'art roman tend à la simplicité. Qu'est-ce que serait une écriture romane? Un peu comme Morandi et ses natures mortes. Je voudrais être artiste monastique et faire œuvre littéraire romane. Je quitte la chapelle de Pritz, traverse le pont et reprends le chemin de halage vers Laval en passant devant Boots, siège dans le passé d'une immense filature. Un seigneur de Laval épousa au XIIIe siècle la dame Béatrix de Grave, originaire des Flandres, qui, voyant ses sujets fabriquer des tissus de laine et de serge à petit profit, eut l'idée d'implanter dans le Maine l'industrie de son pays et elle fit venir des tisserands de Bruges. Dès 1298, le commerce des toiles était en pleine activité. Tout le pays se mit à cultiver le lin et le chanvre. Mon père, qui a lui-même travaillé juste après son mariage dans une ferme près de Fresnes-sur-Sarthe où l'on cultivait encore le chanvre, m'a appris que sur les cadastres, presque toutes les fermes avaient encore des parcelles nommées grandes et petites linières ou filières. Dans toutes les maisons, on filait le lin ou le chanvre, on tissait des toiles, on fabriquait des cordes et des cordages de bateaux pour la Loire et la mer. C'est là qu'on trouve l'origine du fil rouge. Pour identifier les cordages du royaume, le roi émit un édit pour qu'on y insère un fil rouge à la fabrication. Souvent, les femmes eurent affaire au fil et au tissu. Les parcs donnaient à la naissance de chacun un écheveau de fil et le coupaient quand était venu le moment ultime. Dans les vides-greniers et les brocantes, on retrouve beaucoup de pièces de lin brodées par les femmes de leurs rouges initiales, rouges comme leur sang. Dans certaines régions, on disait en effet qu'une jeune fille avait marqué quand elle avait ses règles pour la première fois. Mais la femme qui brode n'en reste pas toujours à ses initiales. Elle continue, elle va au-delà, elle se met à écrire un texte entier sur le tissu. Comme cette Italienne, Clelia Marchi, qui, devenue veuve, écrivit son histoire sur un grand drap de son trousseau devenu inutile. On peut voir son ouvrage exposé aux archives nationales du journal intime de Pieve San Stefano. Après une rupture amoureuse, Sophie Cal broda un temps sa douleur, jour après jour, et le fil, noir, puis gris, s'éclaircit au fur et à mesure que s'apaise la souffrance jusqu'à devenir imperceptible sur le tissu. Puisque tout passe, broder une feuille d'automne sur un doux Kleenex. Puisque tout passe, broder une feuille d'automne sur un doux Kleenex. En 1848, des marchands lavallois découvrirent et apprirent à Nantes l'art de blanchir les toiles. À leur retour, ils créèrent les blanchisseries de Boots. Une vieille chronique rimée en parle. Trois lavandiers il y avait, qui leur toile y blanchissait, sur la rivière, devers Boots, où des toiles avaient de beaux lots. Les Espagnols y descendoient, et leur toile s'y achetoua, dont il demeurait grand argent, qui soutenait beaucoup les gens. Pour alimenter les pays espagnols de l'Amérique du Sud en belle toile, la puissante filature de Boots fut remarquablement outillée. Elle occupait 350 ouvriers, dont 220 femmes, et ne fermait ni le jour ni la nuit. Imaginant ces toiles blanches séchant dans la lumière sur l'herbe verte, je pense à un livre de Lydie Datas, « L'expérience de bonté » où, par de petits textes répétitifs et sans cesse remis sur le métier, elle essaie de dire le mystère du voile blanc mu par une légère brise de celle qui la veillait, petit enfant, tout près de la mort. Dans ces versets, l'auteur tente d'approcher par les mots le fait d'avoir été aimé, d'avoir compté pour le monde, et le seul souvenir qui tient en dépôt cette sublime expérience, c'est celui du voile blanc agité par un souffle. Tu avais pris le voile pour que je souffre moins. Ce voile vivant dans le tissu captait voluptueusement la brise, comme toi respirait. Le frémissement d'étoffe indiquait le moindre souffle d'air, obligeant quelquefois tes mains à des gestes si doux que rien ne semblait plus exister que la mort. Ma fidélité à ta bonté serait banale si je me souvenais encore de ton visage. Mais que ma vénération soit la même quand j'ai tout oublié de toi, quand le bougement blanc de ton voile est tout ce qui me reste de toi, c'est la preuve que ton amour fut divin et qu'en lui, le ciel m'a parlé. Je me revois te regardant contempler, couché dans la jeune chair de mes 3 ans, ébloui par la splendeur incompréhensible de ton voile, me demandant quel accident avait pu t'obliger à bander si admirablement de blanc ton front. Ces mots m'illuminent. J'en viens à souhaiter que ma petite sœur Jeanne ait pu pareillement être visitée par une lumière bien aimante lorsqu'elle fut confiée pour mourir à l'âge de 2 ans aux sœurs d'Evron. Une légende étonnante explique l'origine de la basilique et du couvent Notre-Dame de l'Épine à Évron. On raconte qu'au 7e siècle, un pèlerin qui revenait de Jérusalem avec une relique contenant quelques gouttes de lait de la Vierge, se reposa à l'ombre après avoir accroché sa sacoche à une branche d'aubépine. À son réveil, l'aubépine avait tant grandi qu'il ne put récupérer son bien. Les gens, décontenancés par ce phénomène, firent appeler l'évêque du Mans de passage dans le pays, qui, devant ce prodige, fit le serment de construire un monastère sur ce lieu, et aussitôt l'aubépine se courba. La rivière coule, les légendes aussi nous abreuvent. La rivière coule, les légendes aussi nous abreuvent. Après Boots, j'entre dans l'aval, par ces nouveaux quartiers, entre HLM et résidence, au bord du chemin de halage. Puis assez vite se dresse le viaduc. J'ai toujours haï les viaducs, leur dureté dans le paysage, leur concrétion humide et blanchâtre qui dégouline comme des stalactites, et surtout leurs chuintements et grincements effrayants quand passent les trains. Je ne peux les entendre sans penser au ululement mortifère des trains qui, en Europe, transportèrent les Juifs vers les camps. Pour suivre le chemin de halage, qui, à cet endroit, change de rive, il me faut traverser la Mayenne en empruntant ce viaduc sur l'étage intermédiaire, terrassé de vertiges, loin au-dessus de la surface de l'eau et des bateaux, et sous, beaucoup plus haut, l'étage réservé aux rails où passent de furieux trains. C'est seulement après que je peux, l'esprit apaisé, me promener sur les quais de Laval, la rivière maintenant à ma gauche jusqu'à s'ajouter dans la Maine. De Fougère en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Laval est une ville de province avec un château médiéval qui domine la rivière et les ruelles anciennes. Les églises nombreuses sont connues pour leurs retables baroques en marbre veiné de la région. J'y fréquente à l'occasion deux commerces, la librairie Aime-Lire et la librairie Corneille. J'y ai connu un amour de jeunesse, alors au lycée Ambroise Paré, qui écrivait des poèmes et un journal. Mon frère Roger, qui joue un répertoire important de danse populaire de la région au violon et à l'accordéon diatonique, y travaille à l'hôpital. Mon autre frère, Michel, y vécut longtemps dans la familiarité des artistes naïfs du musée du château, ce qui peut-être l'amena à se passionner pour Gaston Chessac d'abord, puis à élaborer par la suite sa collection d'art brut. Une sœur de ma mère s'y active encore chez Emmaüs. J'y fus toute jeune, ramenée par Europe Assistance du Portugal pour subir une opération. Notre peau, comme les tissus, se couvre aussi de coutures. J'avance vers l'église d'Avenières. Un jour, Guy II, comte de Laval, tomba du pont enjambant la rivière avec sa monture. Se voyant déjà mort, il implora la Vierge. Ramené vivant au rivage par le courant, il fit une prière de grâce à Marie qui lui apparut. Il décida alors de faire construire sur ce terrain où poussaient les avennes, l'avoine sauvage, une chapelle en l'honneur de la Vierge. Poursuivant mon chemin vers la sortie de la ville, je me dirige vers l'abbaye de la Coudre, qui la connaît. On parle beaucoup plus souvent de l'abbaye voisine d'Entrammes, celle des hommes. C'est un peu comme dans le domaine du football. Qui prend des jours de congé pour aller voir un match féminin? Je m'arrête dans mon avancée pour faire une pause entre les murs de silence, pour vivre une journée au rythme de la liturgie des heures. Entre les murs, les jambes au repos, juste le cœur qui brûle. Entre les murs, les jambes au repos, juste le cœur qui brûle. Ce sera une journée de voyage immobile. Il y a tant de façons de voyager. Julien Gracq, dans les eaux étroites, faisait toujours le même trajet en barque, chaque départ, chaque station, chaque retour étant connu d'avance. Souvent, je reprends ce livre, relis quelques pages comme pour une première fois. On a tous nos promenades. Chacun retrouve la sienne dans ce texte, familière, déroulé comme une peinture sur un rouleau japonais, avec toutes les étapes, toutes les impressions, les images qu'elle soulève. Sœur Pascale, la sœur hôtelière, m'accueille. Elle me montre ma chambre, me donne un plan des espaces accessibles aux retraitants, ainsi qu'une plaquette avec l'horaire des prières. 18h15, nous sommes 5 à dîner dans la salle à manger de l'hôtellerie. Sœur Pascale, debout au bout de la table, nous lit une prière pour ouvrir le repas, puis elle se retire. Assis côte à côte, dans le silence accepté, distance abolie. Assis côte à côte, dans le silence accepté, distance abolie. Vers 20h, je retourne dans ma chambre, je mets mon réveil à sonner pour les vigiles, puis je me couche en lisant la plaquette de la coudre. Cinquième jour, le réveil sonne et je me prépare pour les vigiles qui commencent à 4h. Dans la nuit, je traverse la cour de l'hôtellerie vers le couloir vitré qui mène, en longeant l'église, à la clôture. Il est éclairé, cela me réconforte et m'apaise, comme si l'on m'attendait. Une main plus matinale est venue déverrouiller la porte et allumer. Je débouche à l'angle droit de deux longs couloirs faiblement éclairés d'où arrivent, une par une, quelques sœurs silencieuses. Dans le chapitre qui sert de chapelle pendant les travaux de l'église, toutes les sœurs ne sont pas présentes, des sièges restent inoccupés, et je suis la seule de l'hôtellerie. J'aime cette ambiance feutrée de la nuit, les nocturnes en général et les veilleurs de toutes sortes. Durant une heure, se suivent la récitation chantée de psaumes, coupée par un refrain, quelques textes patristiques et un long récit qui relate avec beaucoup de détails le martyre du saint du jour. Vers 5h, je retourne m'étendre un peu dans ma chambre. À 6h45, retour à la chapelle pour les laudes. Le jour s'est levé, on se sent plus fort. Pour cet office suivi de l'Eucharistie, un prêtre est là, en chasuble, accompagné de deux prêtres espagnols en séjour à l'abbaye. Derrière nous, quelques personnes de l'extérieur viennent pour la communion sans doute, deux hommes et quelques femmes. Toutes les sœurs arrivent sans hâte le long des couloirs, puis l'office commence. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ensuite, une hymne. Comment fais-tu de l'homme un Dieu, de la nuit une lumière et des abîmes de la mort tires-tu la vie nouvelle? Comment la nuit vient-elle au jour? Peux-tu vaincre les ténèbres, porter ta flamme jusqu'au cœur et changer le fond de l'être? Suivent quelques psaumes chantés, dont le psaume 148, très proche du fameux cantique de saint François d'Assise, puis une lettre des apôtres et un évangile. Pour l'Eucharistie, ce sont d'abord les sœurs qui s'avancent, puis les retraitants et les laïcs. Le prêtre donne à chacun un morceau de l'hostie présentée, ronde comme un soleil et grande comme une assiette. Les communiants s'avancent ensuite vers l'autel où est posé le calice de vin. Quand les sœurs sortent à la fin de l'office, passant devant les laïcs en allant vers la porte du fond, elles glissent des regards appuyés sur nous, qui existons donc pour elles. Des énigmes aussi, peut-être. Petit déjeuner en silence dans la salle à manger de l'hôtellerie. Cette expérience du silence ensemble est la plus ébranlante de celles que je fais durant ce séjour. Je traverse quelques moments bien heureuses, me disant que peut-être Dieu en chacun de nous nous lie profondément bien au-delà des mots que nous pourrions échanger sans avoir à se raconter. Retour dans ma chambre vers 8h30. Je fais ma toilette, emplie de joie. Au-delà de la sérénité qui m'habite habituellement quand je suis seul à écrire, à lire, à marcher. L'effet du vin de l'Eucharistie? 9h15, je me prépare pour tierce. La porte des laïcs, oubliée, était restée fermée. On vient en courant et en s'excusant nous chercher. Psaume 119, 120, 121, plus antienne mariale, réjouis-toi, reine des anges. 9h30, seul dans la bibliothèque de l'hôtellerie, en silence, je lis « Découvrir l'oraison », petit traité spirituel de Sœur Marie Laetitia, édition pneumathèque. Sœur Pascal, en me donnant les documents la veille, m'avait oralement spécifié les moments où nous pouvions rester en oraison. Mais ce moment ne me disait rien. comme pour une lecture divinée, je lis assise, le stylo à la main, prenant des notes. Oraison vient de orare, prier, qui a laissé oran, oratoire, oratorio. De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux-Serre. Thérèse d'Avila utilise l'image d'un jardin qu'il est bon d'arroser pour produire des fruits. Le jardin serait notre âme et l'eau d'arrosage, l'oraison. Elle distingue trois moyens d'arroser. En tirant de l'eau du puits à la force des bras, l'âme s'épuise vite. En tournant la manivelle d'une noria garnie de godets, moments de fatigue, d'activité, d'ennui, mais parfois des moments de repos et de quiétude. En amenant l'eau d'une rivière, d'un ruisseau, le travail s'en trouve diminué et la terre mieux arrosée. Mais il existe un quatrième état, le temps de la pluie abondante. C'est le Seigneur qui arrose. Le jardinier n'a qu'à se laisser arroser. Mais Dieu peut brûler les étapes ou inverser et mélanger les degrés. Une seule attitude, s'abandonner avec confiance à ce que Dieu nous fait vivre. On peut s'appuyer sur des méthodes qui ne seront qu'un bâton de voyage. L'expression m'amuse, ah, mon cher bâton de voyage. Un bâton de voyage sur lequel on s'appuie à peine. Sainte Thérèse d'Avila, pendant des années, ne pouvait aller à l'oraison qu'en emportant un livre, non qu'elle passât tout son temps d'oraison à lire, ce qui n'était pas de l'oraison, mais il était pour elle ce bâton de voyage. Or, ce Dieu que nous cherchons et que nous voulons aimer n'est pas à chercher loin de nous. Il est en nous. Faire descendre notre prière de la tête vers le cœur, là où Dieu réside, même si Dieu est présent dans l'immensité de la création, le cosmos, la nature. Saint François de Sales, « Oh mon cœur, Dieu est vraiment ici. » Et Saint Bernard, « Qu'aucun d'entre vous, frères, ne tienne pour peu de choses sa prière, car je vous l'affirme, celui à qui elle s'adresse ne la tient pas pour peu de choses. Avant même qu'elle ne soit sortie de votre cœur, il l'a fait écrire dans son livre. Fais taire en toi tout bruit, tout bavardage inutile, afin que tu m'entendes m'approcher de toi. Pour pratiquer l'oraison, il faut accepter les traversées du désert, de durer devant le Seigneur pour rien, de façon désintéressée. Mais s'il arrive que notre âme se trouve tout émue, tout attendrie en Dieu, il est capital de cesser la méditation et de laisser Dieu prendre le relais. C'est alors que nous sommes réellement en contemplation. La contemplation est une attention de l'esprit, mais sans développer de discours. C'est une intuition simple où l'élément affectif prédomine. Lisant cela, je pense non pas tant à moi, comment, me sentant toujours profane, restant devant la porte du temple, me comparer aux vrais croyants. Non, je ne pense pas tant à moi qu'à ces sœurs cisterciennes de la Coudre qui font non seulement vœu de se retirer du monde, mais aussi vœu de stabilité, c'est-à-dire qu'elles entrent à l'abbaye jusqu'à leur mort. Je vois par les fenêtres du couloir, quand je vais à leur office dans la salle du chapitre, leur cimetière dans la cour intérieure du cloître, simple gazon où s'alignent des croix blanches. Elles rencontrent sans doute au cours des heures, des jours, des années, de terribles traversées du désert. Faut-il que leur ferveur soit puissante, ferveur qui n'est peut-être pas étrangère à celle de l'artiste, du poète. Thérèse de l'Enfant Jésus, dans Manuscrit autobiographique, écrit « Un savant a dit « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait pas à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu, car le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Voilà. Nous laisserons pour quelque temps Monique Leroussaire à l'abbaye de la Coudre. Nous l'y retrouverons la semaine prochaine lors de la future édition de Fougères en libellule sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun, c'est-à-dire un récit de voyage mêlant prose et haïku de Monique Leroussaire, publié aux éditions Pipa. À la semaine prochaine.